Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Aujourd'hui, nous commencerons par plonger dans les méandres de notre cerveau avec le neurologue Laurent Cohen.
Votre cerveau baigne dans un liquide dont la quantité est très supérieure à la normale. Je pourrais vous taper sur la tête toute la journée avec ce gourdin chirurgical sans réussir à vous envoyer au tapis.
À 16h, le plongeur naturaliste Laurent Balesta nous racontera l'expédition qu'il a menée en juillet dernier pendant 28 jours dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet avec l'aide de David Leprince. Elle a été préparée par Rebecca de Nantes avec à la technique Florent Bujon.
France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé.
En fait, un neurone est en contact avec le neurone voisin par l'intermédiaire de structures particulières qu'ils appellent des synapses.
C'est où qu'on commande ? C'est ici qu'on commande !
Au même instant, sur un banc du Square Villette, Félix L'Herbier découvre que le nombre de connexions possibles dans un cerveau humain est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un ?
Eh bien... ce que vous avez dans la tête, c'est une masse qui, au fond, n'est pas très considérable, et c'est le cerveau. Et derrière votre front, ici, vous avez les lobes frontaux. Derrière, au niveau de la nuque, vous avez les lobes occipitaux, et puis sous les tempes, les lobes temporaux. Et derrière, ce que vous avez derrière la tête, c'est le cerveau. Par conséquent, ce que vous avez dans la tête, c'est cette masse.
Bonjour Laurent Cohen.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors si on veut comprendre le fonctionnement de notre cerveau, il faut commencer par le démonter pièce par pièce. C'est une bonne approche ?
Oui, c'est-à-dire que c'est pour le cerveau comme à peu près pour toutes les sciences. On choisit un objet, un sujet, quelque chose qu'on veut étudier, et puis on le simplifie, on fait comme s'il était beaucoup plus simple qu'il n'est vraiment, et on le coupe en morceaux d'une façon ou d'une autre.
Alors si on le découpe en morceaux et que l'on zoome à l'intérieur, de quoi est fait notre cerveau ? Beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau dans le cerveau.
Beaucoup d'eau comme dans tout le corps. Ouais. Hein. On vient tous, chacun d'entre nous vient d'une petite cellule, un petit œuf qui était dans le ventre de notre mère, et puis ça se divise, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. Au début elles sont toutes plus ou moins pareilles, et puis à partir d'un moment, elles se différencient, et on a des cellules qui vont donner de la peau, du foie, de la rate, et puis certaines vont donner des neurones. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces neurones ? Eh bien, d'une part, ils ont une forme incroyable, c'est-à-dire que chaque neurone est comme une espèce de buisson, d'arbre ultra touffu avec des tas de branches et de prolongements. Deuxièmement, il y a de l'électricité qui circule dans ces branches, et l'électricité saute de branche en branche, de neurone en neurone. Et donc il y a des espèces de vagues comme ça d'électricité qui parcourent le cerveau et qui sont nos pensées.
Dans tout ça, les synapses, c'est quoi ? Je suis obligé de vous poser la question avec le titre de cette émission.
Alors les synapses, c'est justement les petits points de contact entre les neurones. Alors chaque neurone a des milliers de synapses avec des milliers d'autres neurones, parce que tous ces buissons sont extrêmement emmêlés et enchevêtrés les uns avec les autres. Donc une synapse, c'est un petit espace qui permet d'entrer en contact entre deux neurones. Et alors, au 19e siècle, on ne savait pas on n'était pas sûr que c'était des neurones séparés et qu'il y avait un petit saut à faire d'un neurone à l'autre par les synapses. On croyait que c'était continu, que c'était une espèce d'unique neurone gigantesque, etc. Maintenant, on sait que c'est des neurones séparés, des cellules séparées, et qu'il faut que l'électricité saute par les synapses, d'un neurone à l'autre.
Alors, toute la difficulté pour les chercheurs, c'est d'établir le lien entre ces structures, ces neurones, ces connexions, et puis les fonctions, toutes les fonctions qu'est capable de remplir un cerveau, la mémoire, commander les mouvements, prendre des décisions, rêver, imaginer.
Ah, vous imaginez la difficulté, autrement, parce que évidemment vous partez d'un truc, une synapse c'est tout petit, c'est un peu bête d'une certaine manière, et vous voulez expliquer comment on fait pour écrire à la recherche du temps perdu.
C'est ça.
Il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire que c'est comme des poupées russes. Quand vous voulez étudier le cerveau, eh bien, il y a plein de manières imbriquées les unes dans les autres de faire. C'est-à-dire que si vous prenez, je sais pas, l'Institut du cerveau et de la moelle, par exemple, où je travaille, eh bien, il y a des gens qui passent leur vie à étudier une molécule. Comment elle marche, à quoi elle sert, etc. Il y a des gens qui étudient un truc un peu plus gros. Ils regardent comment marche un neurone, comment fonctionne la physiologie d'un neurone. Il y en a d'autres qui étudient des petits circuits, comment une demi-douzaine de neurones font pour se causer entre eux, etc., etc., jusqu'à un niveau assez global où on regarde des choses comme le langage, la mémoire, la vision, en se disant à quoi sert telle ou telle région du cerveau, comment est-ce qu'elle communique avec telle autre. Donc, on peut zoomer plus ou moins, et ce sont des sciences différentes, avec leurs méthodes à elles, mais qui doivent se causer entre elles.
Ouais. Alors vous, votre approche à vous, Laurent Cohen, est plutôt macroscopique. Hein. Par exemple, la lecture, vous êtes beaucoup intéressé aux mécanismes cérébraux qui sous-tendent la capacité de lire.
Oui, alors je crois que le fait que moi, par exemple, et d'autres, on regarde les choses de façon, comme vous dites, macroscopique, vue d'un peu loin, à quoi sert telle ou telle région du cerveau, c'est parce que je suis neurologue. Et qu'un neurologue, c'est-à-dire un médecin qui se spécialise dans le domaine du cerveau, il voit pas les petites cellules, les petites synapses, etc. Il voit un patient chez qui il y a une panne de quelque chose, il peut pas bouger la main droite, il peut pas bouger la main gauche, il peut plus parler, il peut plus voir, des choses comme ça. Et donc ça oblige à regarder les choses de façon un peu globale et pas dans le détail de la physiologie.
Et là c'est vraiment une approche, c'est-à-dire détecter une panne, voir un dysfonctionnement précis du cerveau et en conclure la région qui est impliquée dans ce fonctionnement en temps normal. Un exemple, le cas d'une agnosie visuelle. Nous sommes en 1966, ce cas est présenté sur la RTF.
Ce malade voit parfaitement bien les objets que je lui ai présentés. La zone de son cerveau qui est chargée d'identifier les messages visuels est chez ce monsieur lésée. Il peut donc parfaitement voir, mais il est incapable de reconnaître et d'intégrer les messages visuels. Il est comparable à un aveugle qui voit. Je vais vous présenter des objets et je vais vous demander de les identifier, monsieur, de me dire quel est le nom de l'objet que je vous présente. Quel est cet objet, monsieur? Vous ne le voyez pas?
On dirait une montre.
Une montre.
Oui, mais...
Touchez-le.
Une pièce.
Une pièce. Très bien, monsieur. Et cet objet, quel est-il?
Ça, on dirait un stylo.
Un stylo, vous voulez bien essayer de le toucher?
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Ça serait de la craie.
Bien.
Alors dans ce cas-ci, le patient avait besoin de toucher pour identifier l'objet. C'est-à-dire qu'on lui présente une craie, il pense que c'est un stylo, à partir du moment où il la touche, il identifie la craie. Pareil avec la pièce de monnaie, il la prend pour une montre, à partir du moment où il la touche, il comprend à quoi il a affaire. Vu de l'extérieur, c'est très spectaculaire.
Alors
ce genre de
cas. Très spectaculaire, et au 19e siècle, c'est en étudiant des cas comme ça qu'a démarré notre science finalement, en se disant, voilà, quelle est la panne exactement qu'a ce patient. Et c'est des choses qui attirent l'attention, on se dit, il faut comprendre ce qui se passe là. Mon premier bouquin qui s'appelle « L'homme thermomètre », ça fait référence à un homme que j'ai connu et qui était un peu comme le patient ou la patiente dont qu'on entend sur ce son, qui, quand on lui montrait un objet, au moins certains jours, eh bien, il disait chaque fois, mais c'est un thermomètre, ça sert à mesurer la température, etc. Et lui aussi, quand il pouvait le tripoter, il reconnaissait ce que c'était. Et au-delà, évidemment, de l'aspect médical des choses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui éventuellement souffrent, dont il faut s'occuper, mais indépendamment de l'aspect médical, c'est des choses qui sont extrêmement informatives. Et qui, même aujourd'hui, où c'est un petit peu passé de mode, parce que l'imagerie cérébrale a un peu pris le devant, ça reste, à mon avis, une source d'information vraiment précieuse.
Ouais. Et il y a toujours des cas vraiment spectaculaires. Hein. Suite à un accident cérébral, un homme est persuadé qu'un sosie remplace sa femme dès que celle-ci tournait le dos.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Capgras. Ça a été décrit par un psychiatre français du nom de Capgras. C'est un truc incroyable. Alors d'habitude, c'est pas les accidents vasculaires qui donnent ça, mais enfin, ça peut se voir dans différentes circonstances. Mais c'est effectivement la conviction que quelqu'un qu'on connaît bien n'est pas celui qu'il a l'air d'être. Et je me souviens d'un patient comme ça qui était certain, il nous avait expliqué que c'était vraiment bizarre. Que de temps en temps, sa femme sortait et puis, à ce moment-là, il y avait une dame, une amie, il savait pas très bien qui lui ressemblait d'une manière incroyable et qui revenait, qui prenait sa place et qui voulait qu'il s'occupe d'elle, etc. Puis elle ressortait et puis sa femme revenait peu après. Mais que c'était deux personnes différentes.
Et ça, c'était lié à une lésion
ça,
précise
lié...
à un endroit
alors,
du cerveau.
Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'explique pas par une lésion unique à un endroit du cerveau, mais pour lequel il y a une proposition d'interprétation si on combine deux lésions. D'une part, une lésion qui fait qu'il n'a pas le sentiment de familiarité de temps en temps. Vous, à sa femme, il n'a pas l'impression de familiarité. Il la reconnaît, mais ça ne lui dit pas grand-chose émotionnellement. Et en plus, une autre lésion qui fait qu'il accepte sans difficulté une explication loufoque, en fait, qui est de dire que sa femme a été remplacée par quelqu'un d'autre. Donc, l'explication n'est pas toujours simple. L'explication, très souvent, ne fait pas appel à une lésion, mais à la combinaison de plusieurs lésions, parce que dès que vous faites quelque chose, en fait, il n'y a jamais une partie de votre cerveau qui travaille. Si vous lisez, vous calculez, vous réfléchissez, vous bougez, il y a toujours tout un réseau de régions cérébrales qui collaborent.
Il y a un cas très célèbre hein, qui date du 19e siècle aux États-Unis. Le monsieur s'appelait Phineas Gage. Que lui est-il arrivé ?
Ah, c'est une histoire incroyable, ça. C'est effectivement un des grands cas fondateurs du 19e siècle. Le type était contremaître sur les chemins de fer qu'on a construits au 19e siècle entre la côte Est et la côte Ouest. Et c'était un type très sérieux, un très bon contremaître. Bon, un jour, il est allé vérifier qu'une charge explosive était bien placée dans un rocher. Et donc, il a pris une barre à mine, une espèce de grande barre métallique. Il a délicatement tapoté au fond du trou dans lequel on avait mis un explosif. Malheureusement, il a peut-être tapoté un peu fort. Ça a explosé et la barre à mine a décollé comme une fusée. Elle lui est rentrée dans une joue. Et il est ressorti par le haut de sa tête après avoir traversé un morceau de son cerveau. Et il est tombé 100 mètres plus loin.
Alors, il a survécu à ça.
Alors, le premier miracle, effectivement, il a survécu. Il a été très bien soigné par le médecin de la ville. Et il a récupéré. Il n'était pas paralysé. Il pouvait parler, il pouvait voir, etc. Mais il y avait eu des changements importants dans sa personnalité, dans des traits subtils de sa personnalité. C'est un cas qui a été un peu remis au goût du jour dans les années 80 par Antonio Damasio et Anna Damasio qui ont repris ce cas et qui ont dit, ben voilà, en fait, ce qui a été endommagé, c'est une partie dans l'avant du cerveau qui est très importante pour la prise de décision sociale notamment. Mmh. Apprécier des finesses de l'adaptation sociale. Et le type n'était plus ponctuel, n'était plus sérieux, il est devenu clochard, etc. etc. Ouais.
Son tempérament avait été totalement transformé, sa personnalité... Oui. À cause de ce morceau de cerveau endommagé.
Ce qui est une illustration du fait que même des choses subtiles, abstraites, comme ça, on pourrait dire, oh là, ça c'est l'âme, c'est l'esprit. Ben, oui, c'est l'âme, c'est l'esprit, mais il faut bien que ça se passe quelque part. Ouais.
La vision aussi est une fonction qui fait appel à différentes parties du cerveau. Et c'est très intéressant parce que selon la partie lésée, on se retrouve encore avec des cas tout à fait particuliers. Vous évoquez des personnes dont l'œil droit voit en noir et blanc, l'œil gauche voit en couleur, par exemple.
Alors ça, attention, ça si vous étiez étudiant en médecine, vous vous feriez taper sur les doigts. C'est pas l'œil droit et l'œil gauche, mais c'est la moitié droite de votre champ visuel et la moitié gauche de votre champ visuel. Ça marche même si vous avez un œil ouvert ou fermé.
Expliquez pourquoi c'est une erreur de...
En fait, c'est une question de câblage, si vous voulez. En fait, si vous regardez droit devant vous, tout ce qui vient dans la moitié droite de ce que vous voyez arrive à votre hémisphère gauche. Tout ce qui est dans la moitié gauche de ce que vous voyez arrive dans votre hémisphère droit. Et ça passe par les deux yeux. Ça se passe par les deux yeux comme ça. Donc c'est pas une question d'œil. Mais ça, c'est un détail.
Ouais.
Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on sait depuis, je crois, 1888. Il y a un neurologue, un ophtalmologiste, je crois, suisse, qui a publié un cas comme ça d'une dame qui voyait en couleur dans la moitié gauche de son champ visuel et en noir et blanc dans la moitié droite de son champ visuel parce qu'elle avait eu un petit accident vasculaire du côté opposé au côté où elle voyait en noir et blanc et qui avait détruit une petite région du cerveau qui l'empêchait pas de voir en général, mais juste de construire les couleurs d'une certaine manière.
Autre cas tout à fait spectaculaire et on se dit ça doit être terriblement handicapant. Une femme qui ne voyait plus tout ce qui était en mouvement.
Oui, alors ça c'est extrêmement rare, ça c'est excessivement rare, mais ça existe, c'est ce qu'on appelle akinétopsie. La perte de la vision des couleurs c'est achromatopsie, il faut faire du grec, c'est indispensable.
Oui.
Donc akinétopsie, effectivement, c'est ça, c'est pas la région des couleurs qui est endommagée, mais c'est la région des mouvements.
Ouais.
Et dans ces cas-là, tout à fait exceptionnels, eh bien les patients voient les objets immobiles et les objets disparaissent, ou une personne qui traverse la pièce disparaît dès qu'elle est en mouvement d'un côté à l'autre de la pièce et réapparaît de l'autre côté de la pièce, ou bien le liquide dans une tasse de thé, il ne voit pas monter, et pof, ça déborde.
Oui, c'est ça, on peut plus remplir un verre d'eau,
voilà.
On peut plus traverser la rue en toute sécurité, c'est terriblement handicapant.
Oui, mais ça ne court pas les rues, si je peux dire.
Ouais, mais ça permet aussi de voir que dans le cerveau, la vision n'est pas un processus attitré à une seule région.
Tout l'arrière du cerveau, il y a au moins un tiers de l'arrière de votre cerveau qui sert à voir, et tout ce tiers, c'est pas comme une pomme de terre, c'est composé de petites régions qui chacune jouent son rôle, une région pour la couleur, etc., une région pour la lecture, par exemple.
Dans un instant, nous poursuivons nos explorations des méandres du cerveau avec le neurologue Laurent Cohen sur France Inter.
Je sais qu'il y a eu un autre rêve, on a rêvé de pouvoir localiser toutes les facultés mentales, en particulier d'après le relief du crâne.
Oui, certainement. Gall, l'inventeur de la phrénologie, avait dessiné sur... un crâne, les différentes bosses qui pouvait représenter les qualités des individus. Et une bosse placée à l'arrière de la tête représentait l'amour des enfants. Une bosse placée à l'avant de la tête représentait la bosse de la poésie. Et encore aujourd'hui, nous parlons de la bosse des mathématiques, mais tout ça n'est pas sérieux.
Oui, c'est touchant, mais oui. On ne peut pas dire que ce soit très scientifique.
C'était une belle tentative.
Tout réveil au goût amer était un cauchemar. Était un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres, et je dormirai, ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Les matins, c'était Angèle dans Du vent dans les synapses sur France Inter.
Du vent dans les synapses, Daniel Fievé.
L'auscultation du cerveau par application d'électrodes, l'électroencéphalographie, est d'une pratique maintenant générale. Les graphiques signalent au passage les tumeurs et guident le chirurgien dans ses interventions, comme ce fut le cas dans cette opération filmée à l'Institut neurochirurgical de Budapest. Ici, sur la bande enregistrée, les accidents du tracé ont mis en évidence la zone suspecte. Minute émouvante. Sur la tête rasée du malade, on va délimiter cette zone en traçant la ligne selon laquelle sera ouverte la boîte crânienne pour permettre l'intervention. Lorsque l'ouverture aura été pratiquée, on va appliquer à nouveau les électrodes sur les lobes du cerveau mis à nu. Leurs indications permettront une localisation beaucoup plus serrée. Par l'interphone de la table d'enregistrement, ces indications seront communiquées au chirurgien qui pourra diriger avec le maximum de précision son intervention sur la tumeur. L'électroencéphalographie est ainsi devenue le complément du bistouri.
Nous étions en 1957, extrait des actualités françaises, Laurent Cohen. Plus de 60 ans après, l'imagerie cérébrale a fait des progrès incroyables. On n'est plus toujours obligé d'ouvrir le crâne pour voir comment ça se passe.
Non, il y a eu des développements remarquables et qui sont très loin d'être finis en fait dans l'imagerie cérébrale. Non seulement ce qu'on appelle l'imagerie anatomique qui permet de voir la forme du cerveau comme s'il était coupé en tranches, comme si on l'avait sous un microscope, mais surtout l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire voir comment le cerveau fonctionne en temps réel, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, de faire du calcul mental, de la lecture, bouger vos pieds, etc. Et il y a plusieurs méthodes qui se combinent, qui ont chacune leur avantage, leur inconvénient, qui permettent de faire ça.
Qu'est-ce qu'on est capable de voir exactement dans un cerveau? Jusqu'où on peut voir penser quelqu'un aujourd'hui?
Alors, en fait, il y a deux grandes familles de méthodes. La première famille de méthodes, c'est surtout l'IRM fonctionnelle, la fameuse IRM fonctionnelle. Alors ça se fait avec une machine d'IRM tout à fait normale d'habitude, c'est-à-dire celle qu'on utilise pour regarder ce qui se passe dans votre épaule ou dans votre dos, c'est la même, mais on l'utilise un peu différemment, qui permet de montrer bien assez précisément les régions du cerveau qui marchent pendant que vous faites quelque chose. Et ça, ça a une assez grande précision spatiale, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres près, ça vous permet de dire où les choses se passent. Et puis il y a une deuxième famille de méthodes qui permettent moins précisément de localiser les choses dans l'espace, mais qui permettent de les localiser, si je puis dire, dans le temps, très précisément, c'est-à-dire milliseconde par milliseconde, suivre le développement de ce qui se passe dans vos pensées. Mmh. Et donc, ces deux familles de méthodes se complètent. La deuxième, c'est un peu ce dont on entendait parler dans l'enregistrement, là, c'est l'électroencéphalogramme et la magnétoencéphalographie qui est sa cousine.
Est-ce qu'un jour, il sera possible, selon vous, hein, c'est un peu de la prospective, mais de savoir à quoi pense précisément une personne, d'avoir une image, d'avoir un mot auquel elle est en train de penser?
Alors, je pense que c'est pas en tout ou rien. C'est-à-dire qu'on dit, est-ce qu'on sera un jour capable de lire dans les pensées? On est capable de lire dans les pensées, depuis un bon moment. Alors évidemment, on peut lire dans les pensées en regardant le visage de quelqu'un. On est nous-mêmes des grandes machines à lire dans les pensées. C'est pour ça qu'on est des bons animaux sociaux. On devine ce à quoi pensent les autres. Mais enfin bon, si on veut s'appuyer sur ce qui se passe dans le cerveau pour deviner à quoi quelqu'un pense, eh bien par exemple, dans les années 90, on a montré qu'on était capable de savoir si quelqu'un était en train de penser ou bien à un visage, ou bien à une maison. Parce que dans le système visuel dont on parlait tout à l'heure, il y a des petites régions spécialisées pour la reconnaissance des visages et pour la reconnaissance des maisons. Et si vous pensez à des maisons, eh bien c'est plutôt cette région qui va s'activer. Si vous pensez à des visages, c'est plutôt la région des visages. Et ça, on peut le mesurer. Ouais. Donc on peut un peu lire dans les pensées. Et ça, c'est un exemple grossier, mais on peut faire mieux. Mais on est très, 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 très loin, peut-être heureusement, de pouvoir mettre quelqu'un dans une machine, d'appuyer sur un bouton et de voir en cinémascope un film de ce qu'il est en train de se rêver ou d'imaginer au moment où vous le faites.
Alors, grâce à ces techniques d'imagerie, des chercheurs sont parvenus à entrer en communication avec des patients qui semblaient être totalement coupés du monde, alités, ne bougeant plus, ne répondant à aucune stimulation. Mais contrairement aux apparences, ils sont encore conscients. Un exemple, ici, en 2012, aux États-Unis, avec un homme que l'on pensait dans un état végétatif depuis 13 ans, mais qui s'est révélé encore conscient à la surprise générale.
Ce patient ne parle plus depuis un accident de voiture. Et pourtant, grâce à cette expérience, Scott Routley, 39 ans, va enfin donner son avis. Ce Canadien est en état végétatif. Un état où, contrairement au coma, le patient a les yeux ouverts, des mouvements réflexes, mais où il semblait jusqu'à maintenant incapable de communiquer.
Imaginez que vous jouez au tennis.
Les neurologues ont voulu en avoir le cœur net. Pour cela, ils s'adressent à Scott Routley, allongé dans la machine, et lui posent des questions. Ensemble, ils ont mis au point un code. Pour répondre oui, le jeune homme doit imaginer une partie de tennis. Une zone très précise est alors stimulée dans son cerveau. Pour répondre non, il doit penser qu'il se promène chez lui. Cela active une autre zone et lui permet de se faire comprendre.
Est-ce que vous souffrez ?
À cette question, le cerveau de Scott Routley s'active. Il répond non.
Tu en es capable. Tu as répondu à une question.
Un grand soulagement pour ses parents et une nouvelle avancée pour la médecine.
Extrait d'un reportage diffusé dans le journal de France 2 en 2012. C'est assez spectaculaire, Laurent Cohen. Est-ce que ce genre de cas est rare?
Oui, c'est probablement rare, mais l'idée générale, c'est que les médecins doivent parfois décider si quelqu'un est conscient ou n'est pas conscient. Dans certains cas, c'est très facile. Oui. Si je vous pose une question et que vous me répondez « oui, ça va bien », je sais que vous êtes conscient. Dans d'autres cas, c'est difficile, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un est conscient, mais ne peut pas communiquer. Comment faire à ce moment-là? Le premier moyen, c'est d'avoir un examen clinique bien sophistiqué, précis, très attentif, avec de bonnes méthodes. Il y a des petits indices qu'on peut avoir que quelqu'un est conscient. Mais si ça ne suffit pas, eh bien, il faut développer des méthodes d'imagerie qui peuvent aider à diagnostiquer l'état de conscience. C'est ce que font, par exemple, mes collègues et amis à l'ICM, Rako Bossit, Lionel Nakache. C'est essayer de trouver un canal de communication avec des patients. Alors, Ils disent là, dans le reportage, que ce patient est en état végétatif.
En fait, il ne l'est pas.
Exact.
Il ne l'est pas.
C'est pas exact. Si quelqu'un est dans un état végétatif réel, ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Il peut avoir les yeux ouverts, on peut avoir les yeux ouverts et être éveillé, mais on n'a pas de contenu conscient. Un patient comme celui dont il est question là, c'est quelqu'un qui est, selon un des vocabulaires, minimalement conscient.
On est en train, avec toutes ces techniques d'imagerie, d'atteindre les confins, les limites de la conscience.
Ben, la conscience, c'est un des nombreux sujets qui, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, on pouvait dire c'est un sujet pour les philosophes, éventuellement pour les psychologues, mais c'était pour ainsi dire un sujet indigne pour des scientifiques. Alors, scientifique, il fait de la physique, il fait de la chimie, mais il ne fait pas de la conscience. Bon, ben maintenant, comme beaucoup d'autres concepts comme ça, mentaux, psychologiques, psychiques, eh bien, il a pu être ramené à un objet étudiable scientifiquement, mesurable.
Pour terminer, Laurent Cohen, intéressons-nous à votre spécialité. Vos recherches à vous portent sur la lecture. On parlait en début d'émission de cette approche qui consiste à utiliser des cas particuliers avec des petites lésions cérébrales pour mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et typiquement, vous vous êtes intéressé à un cas, c'était une personne qui était atteinte d'épilepsie grave. Ça vous a permis d'en apprendre plus sur les mécanismes de la lecture. Expliquez.
C'était un patient qui avait des crises d'épilepsie, donc des espèces de décharges électriques comme ça, incontrôlées dans le cerveau. Et dans certains cas, les médicaments sont pas suffisants pour éviter les crises d'épilepsie. Et dans certains de ces cas rebelles comme ça, eh bien, les épileptologues, les spécialistes de l'épilepsie peuvent être amenés à proposer des opérations. L'idée étant d'enlever un tout petit bout de cortex d'où partirait la décharge électrique de la crise d'épilepsie. Encore faut-il savoir exactement d'où part la crise d'épilepsie. Et dans un encore plus petit sous-ensemble des cas, la seule manière d'avancer, c'est d'implanter des électrodes, de planter des électrodes dans le cerveau du patient. Le neurochirurgien plante des électrodes à des endroits bien précis et puis on laisse le patient dans sa chambre lire le journal et faire ce qu'il veut pendant une dizaine de jours avec des fils qui lui sortent de la tête et on enregistre. Et les chercheurs peuvent profiter d'une certaine manière de cette situation qui est médicalement justifiée pour enregistrer ce qui se passe sur ces électrodes, quelle est l'activité électrique sur ces électrodes qui ont l'intérêt d'être placées à un endroit qu'on connaît parfaitement et de voir quelles sont les activités pendant que le patient fait ceci, fait cela, fait de la lecture par exemple, puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc on a enregistré l'activité de la lecture chez ce patient et il s'est trouvé que une décision a été prise de retirer un tout petit bout de cerveau dont on pense qu'il est très important pour la lecture justement. Mais en pesant les avantages, les inconvénients, le risque de pas traiter les crises, le risque de provoquer des difficultés de lecture, la décision a été prise de l'opérer. Et donc, ce monsieur a été opéré, on lui a retiré un petit morceau de son cortex. Et
quelles conséquences ça a eu alors sur sa capacité
effectivement,
de lecture ?
Effectivement, malheureusement, ça a eu comme conséquence le fait que il a perdu partiellement sa capacité à lire. C'est-à-dire que normalement, quand vous voyez un mot, même un mot un petit peu long, tac, en une fraction de seconde, quand vous êtes un lecteur adulte, comme ça, qui sait bien lire, vous reconnaissez le mot d'un coup, comme ça. Et chez ce patient, ça devenait beaucoup plus difficile. Il faisait, comme un petit enfant, lire la première lettre, la deuxième lettre, M, A, I, mais, M, A, I, S, maison, etc. Donc, un trouble de la lecture. Donc c'était malheureux, évidemment, d'un point de vue médical, ça. Les choses sont améliorées par la suite pour lui, heureusement. Mais ça nous a appris que non seulement cette région précise avait un rôle vraiment important dans la lecture, puisqu'on avait avant et après, quand la région était là, quand la région était partie. Et ça, c'est une situation exceptionnelle. Et en plus, on avait des enregistrements électriques de cette même région avant la chirurgie et de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnel chez le même patient aussi avant et après. Donc c'est une manière de combiner le vieux et le nouveau. Le vieux de l'étude de patient et le nouveau de l'imagerie.
Mais il y a quelque chose d'assez paradoxal dans tout ça parce que notre cerveau d'être humain est le même que celui des Homo sapiens qui vivaient il y a plusieurs dizaines de milliers d'années sur Terre, qui n'avaient pas encore inventé l'écriture, donc encore moins la lecture. Donc ça veut dire qu'on a dans le cerveau des petites zones qui préexistent à l'écriture et à la lecture, mais qui sont indispensables.
Ça, c'est un problème. C'est extrêmement intéressant. C'est très profond parce que ce que ça veut dire, c'est que toutes nos inventions culturelles, la lecture, les maths, la musique, etc., etc., eh bien, doivent trouver leur place dans un cerveau qui n'est pas spécialement fait pour ça.
Ouais.
C'est le cas, évidemment, pour la lecture, puisque c'est une invention récente, ça fait 5000 ans, des gens ont inventé des systèmes d'écriture, avant non. Donc, il y a un petit bout de cerveau, bon, je simplifie en disant qu'il y a un petit bout de cerveau, mais le cerveau doit s'adapter et créer d'une certaine manière un nouveau système. Et ce qui est remarquable, c'est que par exemple dans le système visuel, dans l'arrière du cerveau dont on a parlé tout à l'heure, il y a une petite région qui, quand vous apprenez à lire, quand vous êtes un enfant ou un adulte que vous apprenez à lire, elle développe cette spécialité. Ici, il y a une petite région qui finalement apprend à reconnaître les lettres et leur ordre et ne sert plus que à ça. Ce qui fait que quand elle est endommagée, comme chez le patient dont on a parlé, eh bien on perd plus ou moins complètement la capacité de lire. Donc le cerveau à la capacité de plasticité qui est à la base de toutes nos inventions culturelles.
Merci Laurent Cohen d'avoir fait souffler ce vent de curiosité sur nos synapses. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Odile Jacob, « Comment lire avec les oreilles ». Un grand merci à vous.
Merci, au revoir.
Tout à l'heure à 16h, nous partirons avec le plongeur Laurent Balesta explorer les profondeurs de la mer Méditerranée où il a passé 28 jours. What makes you blind? I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I lived a lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die, I'm only human. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key. Break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Ain't the problem. Ain't the problem, Michael Kiwanuka sur France Inter.
France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé.
Tu sais, un jour j'ai vomi parce que j'avais vomi à l'école parce que j'étais amoureux. J'ai vomi tellement, je la trouvais belle. Ça s'appelait Talia. J'ai un peu mal au cœur. Mon cœur s'arrête à battre un peu. Il bat lentement. Donc quand je suis amoureux, et ben mon cœur tombe.
Est-ce que c'est une maladie, l'amour?
Mais non, c'est pas une maladie. L'amour, c'est quand on veut s'embrasser. C'est parce que on dirait qu'on est malade, mais en fait, on n'est pas malade. J'ai eu la varicelle, la diarrhée. Et ça fait plus mal que l'amour.
Nicolas, au micro de Caroline Cartier en 2006. Il doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Alors je ne sais pas s'il parle toujours aussi bien de l'amour. Nous allons en parler d'amour, nous aussi, cet après-midi avec Marcel Hibert, pharmacologue et chimiste à l'université de Strasbourg dans le laboratoire d'innovation thérapeutique. Le petit Nicolas que l'on vient d'entendre. Que pensez-vous, Marcel Hibert, de sa description des symptômes de l'amour? Alors ça le fait vomir. Je ne sais pas si c'est courant, ça, par contre.
Je pense qu'il pourrait finir pharmacologue ou physiologiste parce qu'apparemment il est une des
description extrêmement précise de tous les symptômes sur tous les organes, donc c'est tout à fait remarquable, un scientifique en puissance.
Ouais, en tout cas, si le petit Nicolas, qui doit être grand maintenant, nous écoute, il peut nous donner de ses nouvelles sur la page Facebook du Vent dans les Synapses. Marcel Hibert, vous vous intéressez entre autres à l'amour et à la chimie de l'amour depuis une vingtaine d'années dans votre laboratoire. Il y a une première expérience qui vous met sur une piste, une expérience menée par un chercheur aux États-Unis sur des rats.
Effectivement, dans les années 1999-2000, donc c'est des gens qui, en observant le comportement animal, ont observé qu'une petite espèce de campagnol qui vit aux États-Unis peut avoir des comportements extrêmement différents selon qu'ils vivent dans la plaine ou qu'ils vivent dans la montagne ou qu'ils vivent dans un milieu favorable ou dans un milieu hostile. Donc ceux qui vivent dans un milieu tout à fait favorable forment des couples fidèles, tout à fait stables et s'occupent de manière presque excessive de leur progéniture. Et par contre, effectivement, les mêmes animaux, les mêmes espèces qui vivent dans la montagne, c'est l'inverse. C'est-à-dire, à chaque rencontre mâle-femelle, il y a accouplement et aucune stabilité dans le couple. Et puis, les deux s'occupent vraiment à minima de leur progéniture, c'est-à-dire 2-3 semaines.
Il s'agit pourtant de la même espèce de rat.
Strictement la même espèce.
Et un comportement totalement différent. Voilà. Alors, pourquoi ?
Alors pourquoi ? Bien justement, des pharmacologues ont été capturés ces animaux, les ont amenés au laboratoire, ont confirmé les comportements. Et puis, ce que fait tout bon scientifique dans ces cas-là, il essaie de trouver la différence entre les deux groupes d'animaux. Et en ayant dosé tout ce qui pouvait être dosé à ce moment-là, dans le sang, dans les urines, etc., eh bien, on a identifié une molécule, deux molécules pour être précis, l'oxytocine et la vasopressine, qui étaient présentes en grande quantité chez ceux de la plaine et au contraire en quantité très faible chez ceux de la montagne.
Donc c'est une hormone, l'oxytocine et la vasopressine également, ce sont deux hormones
cousines germaines fabriquées dans le cerveau, relarguées dans le cerveau et relarguées après dans tout l'organisme.
Et nous, humains, nous les possédons aussi,
absolument,
ces hormones ?
Et même mieux que ça, c'est-à-dire toute espèce à reproduction sexuée possède ces hormones. Et donc, à travers l'évolution, depuis la nuit des temps, on est remonté à peu près à 700 millions d'années. Il y a 700 millions d'années, il y avait déjà cette hormone dans les espèces les plus primitives, comme l'hydre, par exemple, ou des vers ou autres. Bien, toutes ces espèces animales possèdent un système qui est régulé par ces deux hormones.
Et on sait, chez nous, sur quel comportement elle agit ?
Alors c'est connu depuis assez longtemps, en fait, depuis les années 60, la vasopressine était connue pour contrôler l'équilibre hydrique, c'est-à-dire la soif ou au contraire le besoin d'éliminer de l'eau. Ça, c'est le rôle principal de la vasopressine. Et l'ocytocine est également très très connue puisque c'était l'hormone qui est sécrétée par les femmes au moment de l'accouchement et qui va provoquer les contractions du col de l'utérus. C'est aussi ça qu'on injecte aux femmes pour provoquer les accouchements. Donc ça, c'était absolument connu depuis de nombreuses années. Et la découverte des années 2000, c'est que ces deux molécules ont aussi une fonction sur toute une série d'autres fonctions liées à l'attachement.
Donc, l'ocytocine a un rôle dans la façon dont on s'attache, par exemple, entre la mère et son enfant.
Alors, c'est là-dessus qu'il faut toujours être extrêmement prudent, c'est-à-dire sur la base de quelques publications rigoureuses d'un point de vue scientifique, mais qui devront toujours être confirmées dans le futur. Mais effectivement, il semble que les taux d'oxytocine chez la mère pendant la grossesse semblent avoir un certain degré de corrélation avec le comportement maternel après la naissance. On a observé également chez l'être humain que les taux d'oxytocine ou certains gènes associés à l'oxytocine peuvent en fait donner des indications sur la stabilité dans le couple.
Alors là, il faut être prudent. Vous êtes quand même pas en train de nous dire qu'il y a un gène de la fidélité, un gène de l'infidélité, qu'on est déterminé génétiquement pour être plus ou moins fidèle.
Non, il faut effectivement être terriblement prudent. C'est-à-dire que les premiers résultats suggèrent, vous voyez, je suis prudent, qu'il y aurait une prédisposition génétique à avoir un comportement stable dans un couple et à avoir un comportement maternel plus ou moins développé. Alors, il faut être extrêmement prudent, parce qu'effectivement, les gènes sont loin de contrôler tout ça. Les gènes donnent un certain degré de prédisposition, mais derrière ça passe l'environnement, l'histoire, la culture, l'éducation, qui viennent heureusement chez l'être humain complètement, pas effacer, mais en tout cas remettre à leur place la composante génétique.
Et l'ocytocine est aussi impliquée dans la confiance. Et là, on a fait des études très précises. Comment on s'y est pris pour voir chez l'humain, alors on n'est plus chez le rat, on est chez l'humain, pour voir que l'ocytocine pouvait mettre en confiance?
Là, c'est des sociologues qui s'amusent beaucoup avec cette molécule. Cette molécule est disponible sous forme de spray nasal.
Ah oui, pour l'administrer,
voilà, c'est la seule manière d'en envoyer un petit peu dans le cerveau. Sans ça, par voie orale ou autre, ça ne passerait pas dans le sang, ça ne passerait pas dans le cerveau. Donc ça existait déjà en tant que médicament pour favoriser l'éjection du lait chez certaines mères. Donc c'est un médicament classique qui existe depuis de nombreuses années. Et donc du coup, les sociologues peuvent administrer cette molécule-là sous forme de spray nasal pour faire des expériences de sociologie. Mmh. Donc là, en l'occurrence, pour répondre à votre question sur la confiance, c'est une publication de 2005 dans Nature qui montre que lors d'un jeu de rôle, certaines personnes jouant le rôle de banquier, d'autres venant essayer de lui emprunter de l'argent. Eh bien, il y a une différence tout à fait significative entre placebo et puis l'oxytocine qui vient induire de la confiance qui va faire que le banquier va plus généreusement prêter de l'argent à ses solliciteurs.
S'il sniffe de l'oxytocine, il prête plus facilement de l'argent, le banquier, en tout cas la personne qui interprète le banquier dans ce jeu de rôle mis en scène par les sociologues.
Exactement, et donc ce n'est pas simplement
une prise de risque. Ça donne presque envie d'avoir sa petite fiole d'ocytocine quand on va voir son banquier.
Bah écoutez, oui, il faudrait juste qu'ils soient enrhumés, que vous arriviez à lui faire sniffer la molécule, mais parce que c'est que comme ça que ça marchera. Ça crée de l'empathie, en fait, entre l'emprunteur et la personne qui va accorder l'argent. Ça stimule cette empathie. Et on a pu vérifier ça grâce à des contrôles, en faisant par exemple jouer le banquier contre un robot qui aurait la même probabilité de retourner l'argent. Et là, la molécule ne change rien. Donc c'est vraiment la relation d'être humain à être humain qui est modulée par l'administration de cette molécule-là.
Donc on le voit, hein, l'ocytocine impliquée dans les relations mère-enfant, dans les relations sociales, dans le lien de confiance. Plus généralement, vous en êtes arrivé à la conclusion que cette hormone joue un rôle pour nous donner du plaisir qui va impliquer la survie de l'espèce, si je le dis très schématiquement.
Alors en fait, souvent, la plupart des hormones connues ont 2, 3, 4 fonctions. Et celle-ci, ce qui nous a étonné, c'est qu'au cours des 10 dernières années, des 15 dernières années, il y a une multitude de fonctions extraordinairement diverses qui ont été associées à cette molécule, que cette molécule vient moduler. Et lorsqu'on a essayé de comprendre quel pouvait être le lien entre toutes ces fonctions, il est apparu quelque chose d'assez intéressant. Il semble que cette molécule, en fait, de manière schématique, vienne associer du plaisir à toute une série de fonctions. Et le point commun à toutes ces fonctions, c'est qu'elles semblent nécessaires à la survie d'une espèce. Par exemple, chez le mammifère, elle va être impliquée dans la lactation, dans l'accouchement, dans la relation mère-enfant, père-enfant. Après, dans la pulsion pour reformer un couple, elle va mettre du plaisir dans les relations sexuelles.
L'orgasme, l'érection, elle est impliquée.
Alors, c'est pas le seul facteur. Hein. C'est un facteur parmi d'autres, mais c'est un modulateur tout à fait important de ses fonctions. Ouais. Alors, si on veut être très, très provocateur, tout est moléculaire, tout est chimique, en fait. Nous sommes faits de molécules, et donc tout ce qui se passe en nous est la conséquence d'interactions moléculaires.
Ouais. Vous dites même souvent qu'on nous sommes de gros tas de molécules.
Voilà, nous sommes tous des gros tas de molécules, c'est bien pour secouer un peu les esprits, notamment les psychanalystes, ils n'aiment pas beaucoup. Ouais. Donc, toute réaction, tout comportement est la conséquence d'interactions moléculaires, mais extraordinairement complexes. Mmh. Donc, tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est à identifier quelques-unes des molécules qui participent à ces réactions complexes et qui peuvent jouer un rôle majeur, d'ailleurs, dans ces réactions complexes.
Belle Iseulte, buvez ce breuvage. Iseulte boit une gorgée et tend le hanap à Tristan, qui l'épuise à son tour d'un trait. Tout aussitôt, il regarde Iseulte d'un air égaré. Et l'émoi et la frayeur se peignent sur la figure d'Iseulte. Qu'ont-ils fait, hélas ? Ce n'est pas le vin de dépense qu'ils ont bu, ce n'est cervoise ni goudal, mais le boire enchanté que la reine d'Irlande a brassé pour les noces du roi Marc. Tristan, hélas, hélas, Iseulte, vous avez bu votre destruction et votre mort. Cependant, le poison d'amour se répandait dans les veines du valet et de la pucelle. Hier, ennemi, les voici aujourd'hui dru et dru.
Que s'est-il passé ?
Dit Iseulte.
Je vous haïssais il y a une heure, et voici qu'il me semble que je ne pourrai jamais me séparer de vous.
Tristan et Iseulte, lu par Guillaume Gallienne dans Ça peut pas faire de mal. Marcel Hibert, vous, le pharmacologue qui travaillait sur la chimie de l'amour, ce filtre d'amour si tragique chez Tristan et Iseulte, serait-il envisageable un jour, maintenant qu'on comprend de mieux en mieux les hormones impliquées ?
On soupçonne l'oxytocine de pouvoir jouer ce rôle, puisque une des fonctions de cette molécule est de générer de l'empathie. Alors, il faut être prudent, effectivement, sur quelle phase de l'amour on observe. Mais dans l'empathie, dans la durée, clairement, l'oxytocine est là pour sceller cette amitié, cette relation, cette empathie.
Mais il faut bien qu'il y ait un début de quelque chose. Parce que si on administre à quelqu'un de l'oxytocine, ça ne dirige pas son intérêt vers une personne en particulier.
Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut diriger cet attachement? Je n'en sais rien, ça n'a pas été étudié, donc c'est quelque chose qui serait encore à regarder.
Alors, vos recherches sur cette question, Marcel Hibert, vous ont-elles posé des questions éthiques? Justement, quand vous avez décidé de vous intéresser à la chimie de l'amour, vous l'avez dit, c'était un thème très peu étudié quand vous avez commencé à travailler là-dessus dans les années 2000. Est-ce que vous vous êtes dit, si on trouve des choses vraiment précises, ça pourrait avoir des conséquences éthiques importantes?
Bien entendu, on n'est jamais à l'abri d'un succès.
Et donc, non mais ça peut être un succès avec des conséquences.
Bien sûr. Donc effectivement, pendant pas mal d'années d'ailleurs, c'est un projet qu'on a réellement concrètement commencé qu'après 4-5 ans de réflexion.
Ouais.
Parce qu'on avait ces questions-là. Si on invente le Soma de Orwell, si on invente le filtre de Tristan Iseult...
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ça peut être une arme de destruction, de construction massive, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut permettre de manipuler des individus et des foules. Donc voilà. Donc c'est une question extrêmement, extrêmement délicate. Alors, ceci dit, il semble difficile d'arrêter la quête du savoir. Donc, toutes les consultations, toutes les discussions qu'on a pu avoir autour de ces problèmes d'éthique se sont toujours terminées par « continuons ». Ce qui est important, c'est de savoir ce que les hommes feront de cette découverte plutôt que la découverte elle-même. Alors, c'est peut-être un petit peu lâche comme raisonnement. Et puis, en fait, le projet a pris un virage tout autre. À partir du moment où on s'est rendu compte que cette oxytocine était aussi importante pour l'autisme. Et en fait, ce projet purement de recherche fondamentale sur ces mécanismes de l'amour est devenu un projet aujourd'hui médicament, traitement potentiel contre l'autisme.
Alors là, il faut que vous nous expliquiez.
Alors en fait, l'observation a été faite par nos collègues américains, de nouveau, et en observant que si on bloquait tout le système contrôlé par l'oxytocine chez le rat nouveau-né, eh bien en fait, ce rat avait un comportement tout à fait particulier. Il n'allait pas du tout interagir avec son groupe social, avec sa famille et son groupe social. Il restait complètement en marge. Et donc, ce comportement a fait penser finalement à des comportements similaires, en étant très très caricatural, chez l'être humain. Donc, on est allé voir du coup du côté des autistes. Et effectivement, en allant mesurer les taux d'oxytocine chez les autistes, on s'est rendu compte que là aussi, il y avait des écarts par rapport, entre guillemets, à la moyenne. On ne va pas dire à la normale, parce qu'un autiste n'est pas normal. Mais en tout cas, des écarts par rapport à la moyenne. Et les premières expériences qui ont consisté à faire sniffer, donc à administrer par voie intranasale de l'oxytocine à des autistes, ont montré soudain une amélioration de leur interaction sociale. Donc, ça a assez rapidement validé l'hypothèse que l'oxytocine pouvait jouer un rôle clé dans la capacité des autistes à décrypter les émotions chez les gens qui les entourent.
Mais ça a été testé donc chez des humains, pas uniquement sur
chez
des modèles
humains,
animaux. Et aujourd'hui, on en est où de l'approche thérapeutique, de se dire qu'on peut aider les personnes qui souffrent de troubles autistiques?
Alors, ces premières observations ont été confirmées par de très nombreux groupes, c'est-à-dire qu'effectivement, l'administration d'oxytocine ou de vasopressine va réellement moduler les interactions sociales chez les autistes. Après, ça soulève plein de questions. Ça, c'est sur des traitements relativement ponctuels. Qu'en est-il si on administre de manière chronique, c'est-à-dire dans la durée, cette molécule? Est-ce que l'effet va perdurer? Quels vont être les effets indésirables associés à cette administration d'oxytocine? Voilà, toutes ces questions sont en train d'être étudiées. Et une des difficultés pour étudier ces questions, c'est que l'oxytocine elle-même, lorsqu'elle est fabriquée par le cerveau, libérée dans l'organisme, elle exerce son action. Mais lorsque des chercheurs veulent administrer l'oxytocine à des êtres vivants, eh bien cette molécule ne passe pas le cerveau. Elle n'est même pas capable de passer dans le sang lorsqu'on la donne par voie orale. Et en plus, elle est très très instable dans l'organisme. Elle a une durée de vie de quelques minutes. Elle est immédiatement métabolisée, dégradée par le foie. Du coup, c'était le challenge pour les chimistes. C'est-à-dire, le challenge était d'imaginer une petite molécule qu'elle est capable d'être donnée par voie orale, qu'elle est capable de passer dans le sang, capable de passer dans le cerveau, et qui allait pouvoir mimer l'oxytocine, c'est-à-dire se fixer exactement sur les mêmes cibles dans l'organisme, ce qu'on appelle un agoniste de l'oxytocine.
Ouais. Vous avez trouvé alors cette molécule plus petite, mais qui mime parfaitement l'oxytocine.
Donc après 15 ans d'efforts et d'échecs, on a finalement réussi à trouver une molécule qui fonctionne. Donc c'est une publication récente, c'est une molécule qui va se fixer sur la cible de l'oxytocine elle-même, et qui était capable, dans des modèles animaux, d'autisme, de rétablir l'interaction sociale chez des animaux qui avaient perdu cette capacité à interagir.
Alors, les troubles hein, du spectre autistique, hein, on le dit souvent, c'est large, il y a différentes formes d'autisme, pour le dire simplement. Est-ce que cette molécule agit sur toutes les formes d'autisme de la même façon, pour pas donner non plus trop d'espoir à ceux qui nous écoutent? Il faut qu'on reste très prudent quand on aborde ce genre de sujet.
Extraordinairement prudent. Alors, chez l'animal, en prenant toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire que on a réussi à voir, enfin quand je dis on, c'est des collègues pharmacologues, ont réussi à mettre au point 3-4 modèles d'autisme chez l'animal, mais ça ne reste que des modèles évidemment, donc ça ne reproduit en aucun cas exactement l'autisme chez l'être humain. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle les symptômes primaires et les symptômes secondaires donc de cet autisme, et cette molécule et l'oxytocine ont l'air d'avoir un effet positif sur l'ensemble de ces symptômes. Donc c'est ça qui est tout à fait intéressant et prometteur. Maintenant effectivement, il y a énormément de recherches encore à conduire, et utiliser la molécule que nous venons de publier, ce sera un outil de recherche avant tout. Et il y a encore un chemin extrêmement long avant de pouvoir prétendre à un médicament.
Ce qui reste une belle histoire dans ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a 20 ans, vous commencez avec un sujet de recherche fondamental, presque un petit peu anecdotique. On va travailler sur l'amour et la chimie de l'amour. Et on se retrouve 20 ans après avec un espoir d'un traitement assez nouveau pour l'autisme.
Voilà, ça reste qu'un espoir. Il va falloir valider tout ça dans des modèles de plus en plus sophistiqués. Et après, il y a l'évolution de tout candidat clinique. Il va falloir démontrer que la molécule n'est pas toxique et qu'elle est tout à fait tolérable, administrable à l'homme. Donc, pour ne pas donner trop d'espoir, c'est au moins 10 ans de travail si tout se passe bien. Mais en tout cas, une nouvelle piste est ouverte avec une preuve de concept chez l'animal que cette approche est pertinente.
Merci, Marcel Hibert.
Merci à vous.
La personne qui s'est assise autour de la table, c'est Laurent Balesta, plongeur naturaliste. Bonjour Laurent.
Bonjour à vous tous.
Bienvenue, merci d'être venu de Montpellier jusqu'à nous. Alors, après avoir photographié pour la première fois dans les profondeurs le sélacanthe, un poisson que l'on croyait disparu, après avoir effectué de longues plongées dans les eaux gelées qui bordent l'Antarctique, après avoir filmé 700 requins dans la nuit de Polynésie, vous avez réalisé une nouvelle expédition d'envergure en juillet dernier, 28 jours enfermés dans une station marine pour explorer les profondeurs de la mer Méditerranée, comme jamais ça n'avait été fait auparavant. Avec cette expédition, Laurent, vous avez réalisé un rêve que vous aviez en vous depuis 18 ans, c'est ça?
Ouais, je suis un peu idée fixe.
Ouais, la suite dans les idées. Hein.
Cette envie, elle est née de... Paradoxalement, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé à faire des plongées très profondes en Méditerranée avec des nouveaux scaphandres qui nous donnaient ces possibilités d'aller très bas, jusqu'à 200 mètres pour moi. Et donc on vivait un privilège. Tout à coup, on avait accès à des profondeurs incroyables. On se sentait vraiment privilégié. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps que naissait ce privilège, naissait une frustration énorme. C'est qu'on allait à ces grandes profondeurs, mais on pouvait pas y rester bien longtemps. Parce que on était rattrapé par notre physiologie et que pour quelques minutes passées à ces grandes profondeurs, il y avait des heures et des heures de décompression.
Vous allez nous raconter, Laurent Balesta, comment s'est passé ce rêve devenu réalité. Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? À tout de suite.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord.
Lord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Ooh, 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 ooh. Don't worry, ooh, 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 ooh. Be happy. Ooh, ooh, ooh. I give you my phone number. When you worry, call me, I make you happy. Ooh, ooh, ooh,
ooh, ooh, ooh. Don't worry, ooh, 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 ooh. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.